RMC, le week-end des experts, 8h-10h, votre maison, François Sorel, Christian Pesset.
Il est 9h11, c'était RMC, le week-end des experts, la maison. Et on va parler de terrasse maintenant. Pour tous ceux qui ont la chance d'avoir une petite ou une grande terrasse, c'est maintenant qu'on va commencer à en profiter pour déjeuner entre amis, pour peut-être simplement voilà se prélasser, profiter du beau temps. Mais Christian, bah, la terrasse pendant l'hiver, on la laisse un petit peu en friche, et comme on dit. Et là maintenant, ça y est, il faut la nettoyer, l'entretenir et peut-être aussi, pourquoi pas, la modifier, l'embellir. On va parler de tout ça maintenant.
Voilà, on va parler de tout cela avec nos invités. Nous avons Hervé Thiollet qui est avec nous, directeur de Technicil. Bonjour.
Bonjour Christian.
Vous êtes
bonjour.
Une entreprise spécialisée dans les produits de nettoyage, de dégraissage et d'entretien des terrasses, notamment des terrasses d'allées. On verra qu'il y a là pas mal de choses à faire, notamment peut-être dans la protection. C'est-à-dire qu'après l'avoir nettoyée, il faut peut-être la protéger pour éviter justement qu'elle ne s'encrasse à nouveau. Julien Chauffaille, vous êtes chef de produit chez Fiberdeck.
Oui, bonjour.
Bonjour. Alors Fiberdeck, c'est une entreprise spécialisée dans les lames de terrasse en composite, un matériau qui s'est beaucoup développé.
Oui.
Qui s'est beaucoup développé, ben justement parce qu'il est facile à entretenir, hein, essentiellement. Et puis il a d'autres qualités qui sont celles de la stabilité notamment, mais justement il y a peut-être eu aussi un petit peu de déconvenues avec quelques produits qui n'étaient peut-être pas de première qualité. Et puis nous avons en ligne qui nous attend déjà, c'est Florian Marguery.
Oui.
Florian Marguery qui est directeur.
Alors là, ça va nettoyer,
communication
là,
hein. Chez Karcher. Est-il nécessaire de dire ce qu'est un appareil Karcher, parce que je fais attention de ne pas dire un Karcher.
Un nettoyeur haute pression.
Comme certains ont pu le dire à une époque. Bonjour,
bonjour Florian.
Bonjour, comment
allez-vous? Ben, ça va très bien, merci. On va s'occuper de la terrasse, donc ça vous intéresse aussi.
C'est parfait.
N'est-ce pas? Je vais commencer par vous, évidemment, parce que, bon, quand on pense nettoyage, on pense nettoyeur haute pression. Alors, est-ce que tous les nettoyeurs haute pression, y compris les plus basiques, c'est-à-dire ceux qui ont simplement une lance avec une buse, peuvent convenir pour nettoyer une terrasse, qu'elle soit en bois, en composite ou en dallage, que ce soit un dallage naturel ou un dallage de type ciment, béton, etc.
Alors on peut utiliser différents modèles, effectivement, même les plus simples. Après, selon l'étendue de sa terrasse, la teneur de la salissure et son importance, on va pouvoir soit passer sur des modèles plus puissants, soit s'équiper avec des accessoires spécialement étudiés pour ce type de nettoyage.
Alors justement, sur la page Facebook, j'ai passé deux photos même, avec une tête de nettoyage spécifique pour terrasse. Comment ça marche?
Alors c'est un accessoire que nous appelons, nous, le terrasseur.
Terrasseur, attention, voilà. Ça terrasse la saleté.
Exactement, comme son nom l'indique, c'est tout à fait adapté pour les surfaces plates, type les terrasses. En fait, ça ressemble plus ou moins à une cloche sur laquelle est montée une hélice et qui est équipée de deux buses haute pression. L'avantage d'utiliser cet accessoire en comparaison à une lance haute pression classique, c'est à la fois de pouvoir nettoyer une plus grande surface plus rapidement, puisque le rendement est plus important.
Oui.
C'est aussi de ne pas projeter d'eau partout, puisque l'eau est contenue finalement sous la cloche.
Oui.
Le tout en ayant un résultat qui soit homogène, donc il n'y a pas de traces un peu linéaires qu'on peut avoir parfois avec les jets plats. Donc gagner du temps, être plus efficace, et on peut également adapter la hauteur des buses pour préserver sa surface et ne pas l'abîmer si elle est un peu plus sensible.
D'accord, mais c'est vraiment haute pression ça, parce que on a l'impression que on a l'impression parfois que ça caresse la terrasse plus que ça ne la gratouille.
Ah non, c'est vraiment haute pression, c'est équipé de buses haute pression qui sont transférées alors selon encore une fois les accessoires, il y en a qui sont plus ou moins puissants.
Oui.
Mais là, celui-ci, l'avantage, c'est justement ça, c'est de bénéficier de la haute pression tout en étant efficace sur sa terrasse.
D'accord. On a Marc qui nous pose justement
Marc
une question.
Nous attend au
32-16. Restez avec nous, Florian.
Bonjour Marc.
Oui, bonjour tout le monde.
Bonjour.
Alors, racontez-nous, vous êtes où?
Alors, je suis sur Aubagne, au milieu d'un jardin.
D'accord.
Et j'ai une terrasse que j'ai faite en travertin. Donc blanche.
En travertin.
Oui, travertin, oui.
Oui.
Et donc elle est blanche, alors au soleil quand c'est neuf c'est très beau,
et
maintenant que je l'ai depuis plusieurs années, avec la terre, les feuilles mortes, les oiseaux qui passent. Donc elle ternit énormément et je parle pas de la mousse parce que ça, à la limite, je peux gratter.
Oui.
Mais bon, bah, elle se salit et la terre rentre un peu dans toutes les fissures.
Alors voilà, et est-ce que, j'allais vous dire, est-ce que votre travertin possède beaucoup d'alvéoles, ce qui peut être la caractéristique de cette pierre, ou est-ce qu'il est très homogène?
Il y en a quand même pas mal. Alors normalement, elles sont bouchées, elles sont... c'est lisse, plus ou moins, mais il y en a quand même, finalement.
Eh oui, c'est le problème du travertin qui est, si vous voulez...
Qu'est-ce que c'est le travertin?
Ça ressemble à quoi? C'est un marbre de première cuisson, si j'ose dire. Là, je ressors mes études de géologie. C'est que dans les roches qu'on appelle métamorphiques, qui sont celles qui se sont transformées par échauffement, et qui donnent donc les schistes, qui donnent les marbres, si vous voulez, en gros, plus ça a été chaud, plus c'est devenu solide et compact.
D'accord.
Donc le travertin, c'est l'un des premiers marbres. On peut dire que c'est pratiquement du marbre, sauf que c'est pas complètement du marbre.
Et donc il n'a pas été assez chauffé plus costaud que marbre.
Il n'a pas été assez chauffé. Disons l'échauffement a été moindre. Oui. Et donc on a aussi des alvéoles qui se produisent dedans pour des raisons là un peu plus complexes, difficiles à expliquer là. Et c'est pas le travertin, c'est typiquement une des roches de Bourgogne. On en trouve beaucoup en Bourgogne. Et il y a différentes qualités. Alors, qui sont assez homogènes, presque comme du marbre. Mm-hmm. Il y en a qui ressemblent pratiquement à du marbre quand ils sont polis. Puis il y en a d'autres, il y a un petit peu d'alvéole dedans. Et c'est celle-là qu'on utilise souvent pour l'extérieur parce que il n'y a pas besoin d'une aussi belle qualité qu'en intérieur. Donc, effectivement,
Marc, vous aviez... Oui. Alors, quelle était votre question concernant ce revêtement?
Une fois que je la nettoie, après, qu'est-ce que je peux mettre dessus pour la protéger?
Ah d'accord.
Et que le nettoyage se fasse.
Est-ce que vous y a un revêtement que vous pourriez mettre dessus
non,
pour la...
c'est pas un revêtement, c'est un produit de revêtement.
Un produit.
Donc c'est complètement une question pour Hervé Thiollet.
Hervé.
Oui, c'est une question à laquelle je peux certainement répondre. Alors bonjour Marc.
Bonjour.
En fait, il faut nettoyer dans un premier temps et ensuite protéger. C'est-à-dire que vous allez nettoyer les tâches que vous avez certainement sont des tâches qui sont dues aux feuilles. Aux pollutions, donc là vous utilisez un nettoyant, soit de tâches organiques, soit un shampoing. Vous avez des produits spécifiques pour la pierre naturelle et la pierre reconstituée, qui sont très très efficaces pour nettoyer. Et après avoir nettoyé, vous passez un protecteur, qui est un protecteur hydrofuge et oléofuge, qui vous permettra de protéger contre la saleté charriée par l'eau et les graisses. Voilà.
Est-ce qu'il faut repasser le protecteur régulièrement? Parce que si je la renettoie avec une brosse, le protecteur, il va disparaître.
Non, si vous utilisez un produit de qualité...
De chez Technocide, quoi, évidemment.
Merci, Christian, c'est vous qui l'avez dit. Vous pouvez être tranquille pendant 5 ans. Voilà, il faut appliquer ces deux couches. C'est invisible, c'est microporeux, ça peut être bien dans les pores justement de votre dallage travertin.
Et justement, ça se met comment en fait?
Ça s'applique en fait dans un premier temps au pulvérisateur, d'accord. Et puis ensuite vous répartissez, j'allais dire, le surplus au rouleau, voilà, en deux couches.
D'accord. Très bien.
Mais voilà, Marc. Comme ça après vous avez un revêtement nickel. On revient dans un instant, 9h19, le 32-16 ou maison@rmc.fr. On parle de l'entretien des terrasses et de l'aménagement aussi. N'hésitez pas, si vous avez envie de changer justement le revêtement de votre terrasse, c'est le moment ou jamais de poser vos questions à nos invités. 32-16, maison@rmc.fr. À tout de suite.
Le week-end des experts sur RMC, votre maison. RMC, le week-end des experts, 8h-10h, votre maison, François Sorel, Christian Pesset.
Voilà, 9h22, le retour du week-end des experts, la maison, et on est sur notre terrasse ou notre balcon ce matin.
On se prélasse,
mais avant de se prélasser, il faut l'entretenir.
Évidemment.
La remettre en ordre après l'hiver, et peut-être aussi, pourquoi pas, la modifier, la transformer. On en parle ce matin avec nos invités.
Il y a quelques équipements intéressants. Mm-hmm. On va continuer avec Hervé Thiollet de chez Technicil. Moi, je suis allé voir sur votre site. Il y a un nombre impressionnant de produits. On n'imagine pas qu'il puisse y avoir besoin de tant de produits pour entretenir une terrasse, et notamment les terrasses en dallage. On pense que finalement, il suffit d'un petit coup de nettoyage tous les ans. C'est quoi les grandes familles, je dirais, de produits pour entretenir justement correctement sa terrasse?
J'allais dire, pour répondre à votre question, Christian, il y a effectivement plein de produits parce qu'il y a plein de besoins. différents. Ouais. Hein, j'allais dire, en fait, on, en tant que spécialiste depuis 30 ans sur ces sujets, en fait, on sait que tout dépend du minéral, de la matière, du support qu'on doit nettoyer.
D'accord. Et en fonction vous occupez pas de bois, vous, c'est uniquement?
Non, les dallages, les pavages, le béton, pierre reconstituée, voilà, et pierre naturelle. Donc, en fait, il y a, le principe, il est simple dans, j'allais dire, dans l'application de tous ces produits, c'est que vous avez des taches, donc il faut les détacher. Donc, vous avez des produits pour détacher. Ça peut être des taches de rouille, ça peut être des taches de graisse, la tâche est de nature différente, donc vous avez évidemment un produit qui est un composé différent et qui, par là même, va agir correctement. Ensuite, vous avez des nettoyants qui vont permettre de nettoyer l'ensemble de la surface, type shampoing ou pour nettoyer les fluorescences, par exemple. Et puis ensuite, des protections qui, en fonction, si c'est de la pierre naturelle, du béton, de la pierre reconstituée, si on veut un aspect invisible ou un aspect mouillé, eh bien, c'est ce qui définit l'offre.
D'accord. Vous parlez justement des efflorescences. Mmh. Alors, j'ai constaté que c'est souvent, j'ai eu plusieurs questions déjà sur le sujet, c'est que il y a le matériau lui-même, mais il y a des joints. Alors on va avoir par exemple un schiste, et puis on a des efflorescences qui sont des efflorescences liées au, notamment au ciment qu'a fait le mortier de liaison. Mm-hmm. Et ça, c'est très incrusté, ça, au bout d'un moment. Comment on peut en venir à bout?
Alors, vous pouvez en venir à bout en passant un nettoyant d'efflorescence ou un nettoyant anti-voile. Hein. Tout dépend de la nature, j'allais dire, de ce que vous appelez l'efflorescence.
D'accord. Mais comment on peut savoir ça? Moi, c'est s'il y a des dégoulinures, parce qu'en général, c'est ça, notamment dans les contre-marches.
Des dégoulinures.
Oui, des dégoulinures qui sont blanches.
En fait, sur des produits de béton ou de pierre reconstituée, oui. On a ce qu'on appelle la remontée naturelle de chaux, oui. Hydraulique.
D'accord.
Donc, c'est ce qui caractérise les efflorescences. Dans ce cas-là, vous utilisez un nettoyant d'efflorescence. Sur la pierre naturelle, souvent, vous êtes sur une remontée de voiles de ciment qui sont plutôt dues à des joints, comme voilà, on l'a expliqué. Là, dans ce cas-là, utilisez un nettoyant anti-voile.
Un nettoyant anti-voile. Mmh. Et tout ça, ça s'applique comment? Parce que c'est à la brosse. C'est, vous parliez de rouleaux tout à l'heure.
Je parlais des rouleaux pour les protections, mais pour le nettoyage, les produits sont en général à diluer, c'est-à-dire on a un bidon avec une formule active concentrée.
D'accord.
Et on dilue avec de l'eau dans un arrosoir, voilà, on étale, on laisse un peu agir, on frotte et puis ensuite on rince, tout simple.
D'accord.
Parfait, Christian.
Oui.
On va se retrouver dans un instant après la météo, les infos. On va poursuivre. Hein, on a encore
bien
une demi-heure.
Oui, bien sûr.
On va parler justement de revêtement, hein, de sol
et
pour les terrasses.
Et puis on va parler de bois synthétique, on va dire, ou de composite.
Composite.
Tout à fait à la mode.
Et puis même des gazons, vous savez, artificiels.
Oui,
il y a des trucs
après.
Maintenant très sympas.
Oui, tout à fait.
Un mot aussi pour vous rappeler qu'il y a toujours cette perceuse à percussion électrique que nous vous offrons. Vous pouvez tenter votre chance par SMS. Vous nous envoyez le mot maison dès maintenant. Vous tapez maison sur votre mobile, vous envoyez ça au 732-16 et vous participerez au tirage au sort 50 centimes d'euros le SMS. Si vous avez des questions sur les terrasses et les revêtements, bien évidemment, ou sur le balcon, 32-16, maison@rmc.fr. On va se retrouver dans un instant après la météo et les infos de 9h30. À tout de suite, c'était RMC. Christian PC, attention!
Oui, mon cher François.
Une petite question flash, oui. La question de Jean-Pierre.
Allons-y.
J'envisage de changer notre portail et de le motoriser, Christian. Oui. Quelles sont les différentes solutions et laquelle est la plus pratique?
Alors, en fait, c'est le choix va se situer au niveau de ce qu'on appelle la cinétique du portail, c'est-à-dire son mode de mouvement et d'ouverture et donc de fonctionnement. La motorisation, en fait, ça vient ensuite. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a deux types d'ouverture. Il y a les portails à battants, un ou deux battants, qui pivotent sur des gonds et qui s'ouvrent vers l'intérieur, ce qui suppose un dégagement en profondeur qui correspond à la longueur du battant, ce qui bien qu'on a une perte quand même de surface utile, parce que la voiture, bah, il faudra bien la faire rentrer d'au moins autant pour arriver à refermer son portail. Et puis, il y a le portail coulissant sur un rail au sol qui s'échappe d'un côté ou de l'autre du panneau, mais qui suppose d'avoir un dégagement latéral égal à la longueur du battant. Alors donc, c'est-à-dire que sur le côté, il faut davantage d'espace.
Oui.
Le gros intérêt, c'est qu'évidemment, ça ne prend pas de place de débattement quand ça s'ouvre. Alors, il va y avoir quatre types de motorisation qui vont être différents suivant le mode de portail. portails. On va en avoir trois pour les portails battants et puis un seul pour les coulissants. Alors qu'est-ce qu'on a? On a des bras articulés pour les battants, c'est le plus simple, c'est pour les portails légers. On a des vérins, c'est un par battant évidemment, c'est pour les portails plus lourds. Et puis très rare, on a une possibilité de mettre dans le sol, au niveau des axes de pivotement, un gros moteur qui permet de, par exemple, faire fonctionner les portails les plus lourds. Enfin, donc pour ce qui est donc des coulissants, eh bien on a une roue crantée avec une crémaillère. Ensuite, évidemment, pour tout ce qui est des automatisations, il va falloir être en règle avec la sécurité.
RMC jusqu'à 10h, votre maison. Christian Pesset, François Sorel.
Il est 9h34, c'est RMC, le week-end des experts, la maison et la terrasse, terrasse ou balcon. Ce matin, on prépare justement ces espaces à vivre, hein, qui sont l'extérieur. On les a peut-être un peu délaissés pour l'hiver, hein, Christian. Là, et maintenant, oui, pour les beaux jours.
Le mauvais temps les a parfois encrassés.
Exactement. Voilà. Donc, on va parler de revêtements. On va parler aussi, tiens, pourquoi pas de gazon artificiel.
On va voir. On a donc Hervé Thierry avec nous de chez Technicil. On a en ligne toujours pour venir à notre secours avec un nettoyeur haute pression. Nous avons Florian Marguerie et nous avons avec nous Julien Chauffaille qui est chef de produit chez Fiberdeck. Alors on va en profiter pour passer, je veux dire, un peu à la terrasse bois, mais surtout là avec le composite. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que ces terrasses qui ressemblent à du bois, où il y a du bois mais c'est pas tout à fait du bois?
Oui, alors les lames de terrasse composites sont constituées effectivement de polymères mélangés à de la fibre de bois. Donc
oui. C'est un mélange de plusieurs matières, en fait, c'est ça?
C'est ça, donc c'est un polymère, il y a différents types de polymères.
Polymère, ça veut dire quoi? C'est du PVC?
Ça peut être du PVC, polyéthylène, polypropylène, il y a différents types de polymères qu'on associe à de la fibre de bois.
D'accord.
Voilà. Mais alors, quel avantage par rapport au bois?
Alors, par rapport au bois, on n'aura pas le phénomène de grisaillement des lames de terrasse.
Donc, la couleur ne bouge pas?
La couleur ne bouge pas.
D'accord. C'est sûr, ça? C'est garanti?
Alors, maintenant, on arrive à faire des produits qui sont absolument garantis contre la réaction aux UV. Sinon, la plupart des produits sont effectivement, enfin, peuvent avoir une décoloration légère de la couleur.
De la couche superficielle.
De la couche superficielle, voilà, qui va entraîner juste, enfin, un patinement de
l'aspect esthétique. Mais après, ça bouge
plus. Esthétique. Et après, d'accord, ça bouge plus.
D'accord. Et alors, en termes de nettoyage, j'imagine que, on a aussi, de l'encrassement, parce que c'est pas parce que c'est un matériau de synthèse que, bon, ça grisaille pas, ça grisaille moins, on va dire, ou ça ne se décolore moins, mais, est-ce que ça nous garantit, de s'encrasser moins?
Alors, effectivement, sur les lames composites, le fait qu'on ait une fibre de bois peut amener des dépôts de taches de graisse ou des dépôts de débris, de pollution, de pollen, qui peuvent entraîner des petites taches de graisse en superficie. Ou des petits dépôts noirs type tache de moisissure.
D'accord, on va revenir donc sur le nettoyage. Mais bon, moi j'ai vu quand même qu'il y avait pas mal de lames qui avaient des problèmes de stabilité, c'est-à-dire qui s'étaient déformées. Est-ce qu'il y a là une précaution à prendre? Est-ce que c'est des produits qui ont été, je dirais, peut-être mal réalisés, mal fabriqués? Qu'est-ce que vous nous dites là et comme précaution de pose, notamment contre les phénomènes de dilatation?
Alors aujourd'hui, le phénomène de dilatation, on ne peut pas l'empêcher. Sur le composite, comme on est sur une base polymère, ça va forcément se dilater.
D'accord.
Voilà, donc il faut qu'on respecte les anthraxes, donc les espacements entre l'embourde. Et ensuite, le second point très important, c'est laisser des joints de dilatation entre lames pour que le produit puisse se dilater sans forcément...
Nous avons des questions. Et on en a plein. Tout à l'heure, nous allons retrouver Béatrice qui nous attend au 32-16. Et tout de suite, c'est Thérèse qui est là. Bonjour Thérèse.
Oui, bonjour.
Bonjour François, Thérèse.
Bonjour Christian.
Bonjour Thérèse.
J'ai une question concernant une terrasse donc chez ma maman, extérieure, qui fait 40 mètres carrés, qui est en carrelage.
D'accord.
Et bon, elle avait bien demandé à ce qu'on mette un carrelage qui soit en style dérapant, sauf que ce n'est absolument pas le cas. Et dès qu'il pleut, c'est une véritable patinoire. C'est très dangereux.
C'est très dangereux, ça.
Voilà. Alors, est-ce qu'il existe quelque chose que l'on pourrait passer sur la terrasse pour que ce soit moins glissant?
Alors je vous rappelle, tout à l'heure je l'ai évoqué, il y a effectivement des classements de résistance à la glissance, notamment à la glissance lorsqu'on est chaussé. Il il faut y faire attention, effectivement, et peut-être pas se contenter de l'affirmation du pro qui vous le pose. Il faut demander, justement, qu'on ait véritablement communication du classement de résistance à la glissance. Là, est-ce que il existe, pour l'intérieur, il existe des produits, des réducteurs de glissance. Hervé Thiollet, chez vous, ça existe, ça, pour la terrasse elle-même?
Pour la terrasse elle-même, non, on utilise des produits qui ne vont pas augmenter la glissance, hein, comme des produits qui sont non filmogènes, mais qui sont pas faits pour le carrelage. Voilà.
D'accord.
Donc le problème du carrelage, c'est qu'il faut plutôt privilégier des produits type Graisseram qui ont la classe de classement dont vous parlez.
Oui, voilà. C'est ça. Il faut à ce moment-là une classe supérieure. J'évoquais tout à l'heure. C'est de R9 à R13. Hein, alors.
Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que
le carrelage, j'entends.
Oui. La classe. Mais là, on répond pas à la question de Thérèse. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut mettre un revêtement antidérapant en quelque sorte? C'est ça, Thérèse?
Alors, oui, voilà, c'est ça.
Est-ce
qu'il y a une autre solution que changer le carrelage?
Mais voilà. Il y a des réducteurs de glissance. Ce qu'il faut voir, moi, je connais les réducteurs de glissance pour les salles de bain.
Oui. Hein,
donc ça, c'est un produit qu'on applique au rouleau, hein, tout simplement. Je pense qu'il doit en exister aussi pour l'extérieur.
Comme de la peinture, en fait, au rouleau.
Oui, comme la peinture, mais ça s'applique au rouleau. Et donc, il faut le refaire de toute façon régulièrement.
Oui, parce que j'imagine
parce que
ça
évidemment,
s'en va.
Ça s'en va, quoi. Hein.
Oui,
donc ça s'appelle les réducteurs de glissance.
Réducteurs de glissance.
Voilà.
D'accord.
Voilà, Thérèse.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Bonne journée, au revoir.
Voilà, on a Béatrice aussi qui nous attend au 32-16. Bonjour Béatrice.
Bonjour Béatrice.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Alors, je vous appelle pour le nettoyage d'un balcon carrelé qui est horriblement sale. Et je pense que d'anciennes locataires précédents ont dû mettre du vernis dessus. Donc, par endroit, c'est tout parti. Alors, non seulement il y a un restant de vernis, et puis il y a aussi des efflorescences de ciment, comme vous avez dit tout à l'heure.
On va poser la question à Florian Marguery.
Oui, je crois qu'il faut tout nettoyer tout ça, non?
Est-ce que là, vous avez une solution pour décaper une terrasse carrément, enlever, donc, apparemment sur du carrelage, du vernis? Est-ce que mécaniquement ça peut se faire, ou est-ce qu'il faut passer au décapant?
Alors, je pense que sur un balcon, plus particulièrement, ça va être un petit peu compliqué d'utiliser l'hydrosablage, qui est la solution qu'on propose pour un peu rénover et décaper, justement.
Attendez, l'hydrosablage, ça veut dire quoi?
Alors, l'hydrosablage, ça consiste à utiliser son nettoyeur à haute pression avec une sorte de sable qui va être projeté à haute pression sur une surface.
Alors ça existe chez vous en matériel hors du matériel pro?
Ça existe aussi, il y a une déclinaison grand public de cette technologie-là.
D'accord.
Et donc c'est beaucoup plus efficace que un nettoyage simplement à l'eau, j'imagine.
Là c'est pas du tout du nettoyage, c'est vraiment de la rénovation.
D'accord.
Alors une fois qu'on a enlevé ce vernis, Hervé Thiollet, vous allez avoir une solution pour traiter donc ce carrelage pour qu'il se salisse plus finalement, au moins.
Oui, une fois qu'il est complètement nettoyé, alors j'allais dire peut-être après la solution que précisait Florian, il peut être effectivement du coup conseillé de passer un shampoing ou un nettoyant de taches organiques pour véritablement aussi désincruster dans les pores toute cette saleté qui s'est accumulée depuis plusieurs années. Ensuite, il faut utiliser des protections, mais des protections qui là, dans ce cas-là, sont adaptées au carrelage, hein, spécifiques au carrelage.
D'accord.
Il existe des fabricants qui sont spécialistes dans ce domaine.
Mais Christian, on peut pas abîmer le carrelage justement si on prend ce système là de nettoyage de pression avec du sable à l'intérieur?
Oui, je pense, Florian, il doit falloir là y aller mollo, non?
Ah, tout à fait, oui, là c'est vraiment pour éliminer.
Et on n'a pas intérêt à prendre un décapant chimique à ce moment-là, tout simplement?
Pour répondre à la question de Béatrice, si je me souviens bien son prénom, sur un balcon, par contre, je ne recommanderais pas forcément de procéder avec ça, puisqu'il y a quand même un certain nombre de projections, pour le coup.
Eh oui.
Et elle risque de s'attirer aussi quelques soucis avec ces...
Oui, on connaît... dans les grandes villes, on voit les nuisances du sablage des façades. Hein. C'est extrêmement, évidemment, désagréable d'envoyer du sable chez les voisins. Donc là, ça va pas être possible.
Alors, qu'est-ce qu'on fait pour Béatrice?
Eh ben, moi, à ce moment-là, je ferai un décapage chimique, tout simplement pour enlever utiliser un décapant chimique pour enlever le vernis.
Qui va désagréger le vernis,
attention,
c'est ça?
Attention, là aussi, en balcon, de ne pas balancer du décapant chez le voisin, parce que les plantes pourraient très bien ne pas vraiment aimer.
Le balcon est plein, hein, le balcon est plein.
Ah bah s'il est plein, il va falloir le vider de toute façon.
Hein, non, mais il est plein.
Il est plein.
Le béton arrive jusqu'au sol, donc
oui,
je peux
il
pas
est plein, mais il y a pas de.
En principe chez le voisin.
Pardonnez-moi l'expression, mais il y a pas de pissettes qui sont là. Quand...
Si, mais on peut le boucher.
Voilà, c'est ça.
N'oubliez pas de le boucher. Voilà.
Vous le bouchez. Oui. Alors vous n'oubliez pas qu'il existe aussi des décapants secs, qui sont en poudre.
Vous pouvez nous donner des noms.
Oh bah vous avez des Capex par exemple qui existe de la famille de chez Bondex et compagnie. C'est-à-dire de Dirop. Donc là, vous avez un produit qui est sec et qui vous permet. Donc alors à ce moment-là, faut l'aspirer. Attention, attention aux yeux, attention surtout en extérieur, ça risque de voler.
Oui, parce que c'est de l'acide.
Voilà. Et puis, maintenant, ce sont des produits. Ah ben, qui a forcément une agressivité. Hein, sinon, ça marcherait
pas. Ça marcherait
pas. Mais c'est moins nocif qu'autrefois.
On revient dans un instant. Et alors, bien évidemment, on va poursuivre avec nos invités, mais nous aurons aussi la question de Sylviane qui a 35 mètres carré de balcon dans son appartement. Elle aimerait bien changer son revêtement pour du gazon artificiel.
Eh bien, justement.
Ça tombe bien, dites-moi. Parce qu'on va évoquer ça aussi. C'est très tendance, le gazon synthétique, comme on dit. Eh bien, on en parle dans quelques minutes avec nos invités. 3216, maison@rmc.fr. Si vous voulez nous joindre, à tout de suite.
Le week-end des experts sur RMC, votre maison. RMC, le week-end des experts, 8h-10h, votre maison. François Sorel, Christian Pesset.
9h46, c'était RMC, le week-end des experts, la maison. On évoque les terrasses encore pendant quelques minutes avec nos invités. Christian Pesset, bien sûr, et nous accueillons Sylviane. Bonjour Sylviane.
Bonjour RMC.
Bonjour Sylviane.
Bonjour.
Oui, alors moi je vous appelle parce que, donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai 35 mètres de balcon autour de mon appartement, j'habite Paris. Ce qu'il y a, c'est que j'ai beaucoup de plantes. En fait, j'ai quasiment un vrai petit jardin là. Autour de l'appartement.
C'est super.
Et ce qu'il y a aussi, c'est que j'ai dû parquer à l'intérieur. Et en fait, j'hésite. Bon, vous aviez dit tout à l'heure que c'était pour du gazon artificiel. Alors, entre autres, mais j'hésite en fait entre du gazon artificiel et du caillebotis, sachant qu'il y a des problèmes avec les plantes, avec les caillebotis, parce que les plantes, ça fait beaucoup de saleté. Ouais. Et après, j'ai peur qu'il y a plein de saleté qui vient des plantes là, qui passent entre les lames et qui serait un problème après pour nettoyer.
Alors justement, eh bien, on a prévu, on a été devin là sur votre question. On a Rudy Cassonac avec nous qui nous attend par téléphone de chez Excel Green, justement qui est spécialisé dans la fabrication des gazons synthétiques. Bonjour Monsieur Cassonac.
Bonjour.
Donc, alors, le gazon synthétique, ça existe depuis longtemps. Moi, j'en avais posé sur mon balcon à Paris il y a 30 ans. Donc, c'est pas une nouveauté, mais je crois que ça a beaucoup évolué. Il y a maintenant quand même des qualités bien différentes. C'est parce que ça piquait un peu aux pieds à l'époque, quand on sortait pieds nus sur le balcon.
Effectivement, ça n'a plus grand-chose à voir avec le gazon que vous aviez posé il y a 30 ans.
Oui.
On n'est plus du tout sur un gazon, on va dire, type moquette. Et la tendance depuis 10 ans, c'est quand même un gazon qui se rapproche le plus possible du gazon naturel.
D'accord. Et donc, c'est fait en quoi? Alors, quand on dit synthétique, c'est du PVC, c'est quoi?
Non, c'est du polyéthylène, du polypropylène.
Et donc, c'est piqué sur un support, un peu comme une moquette malgré tout, non?
C'est le principe, c'est du tuft, donc c'est une aiguille qui plante une touffe de fil, qui la coupe et on la fixe au dossier avec une induction généralement latex.
Alors pour répondre à la question de Sylviane par rapport à l'entretien justement de ce type, est-ce qu'un gazon synthétique c'est pas un piège à poussière, à gravier, à terre?
Surtout quand on a plein de plantes autour.
Voilà, est-ce que ça convient?
C'est un entretien, on va dire. Classique, sur une terrasse surtout, ça va être soit un ramasse-feuilles, soit si c'est accessible à l'aspirateur, c'est en temps sec avec l'aspirateur, c'est l'idéal.
Alors ça se pose comment? Exactement comme de la moquette?
Ouais, c'est un revêtement de sol souple, donc une pose assez simple. Sur une dalle béton, ça va être soit avec un double face pour une pose provisoire ou à renouveler tous les ans, soit avec une résine polyuréthane si on veut le fixer définitivement. Mais dans ce cadre-là, le jour où on veut enlever le gazon, on va l'arracher.
D'accord.
Et ça se découpe facilement,
avec des gros ciseaux, non?
Au cutter, c'est très simple.
D'accord.
Après, il n'y a pas besoin d'être un grand expert pour le poser. Il faut juste avoir un peu de minutie et de patience. Je pense que c'est les deux ingrédients essentiels.
D'accord. Rudy, ça coûte combien, en fait, du gazon synthétique? Quelles sont les gammes de tarifs?
Ça part de 10-12 euros jusqu'à 40 euros pour un modèle très haut de gamme.
Au mètre carré,
excusez-moi.
Oui.
Après, c'est au final, c'est très simple. Plus votre produit est dense, plus il est, plus il sera cher. Donc, c'est vous.
D'accord.
On achète du poids de fil, en fait.
Ok. Hein. Oui, ça va jusqu'à 40 euros le mètre carré.
Jusqu'à 40 euros le mètre carré. Et quelle largeur ça existe?
Ça existe 1 mètre, 2 mètres, 4 mètres.
Oh.
Et sur des longueurs maximum de 30 mètres. Et le client peut choisir la longueur qu'il veut. C'est, l'idéal, c'est de...
Moins un mieux en sport.
Exactement.
Ok, merci Rudy Cassonac. Je rappelle, vous êtes responsable de chez Excel Green. Donc pour les
gazons, c'est en plus.
Alors, puisqu'on est dans les balcons, eh bien, on va parler aussi de la protection des garde-corps. Et là, on a Nicolas Desvaux qui nous attend, qui est responsable technique chez l'acrylique. Alors là encore, je peux parler de mon expérience. C'est qu'il y a 30 ans, sur ce balcon où j'avais mis du gazon synthétique,
ouais.
Eh bien, j'avais habillé, j'avais à l'époque un petit. Et j'avais habillé le balcon avec des plaques de plexi pour éviter que les petits jouets
tombent.
Alors, bonjour Nicolas Devaux.
Bonjour.
Alors, vous avez une entreprise, je sais que vous avez lancé aussi un site internet de découpe de ces plaques, de ces panneaux. Qu'est-ce qu'on met aujourd'hui? À l'époque, on ne parlait que de plexiglas. Est-ce qu'il y a différentes qualités et est-ce que notamment ça ne risque pas trop de se dépolir sous l'effet du vent et du transport des particules solides, autrement dit du sable.
Voilà. Alors, bah, écoutez, le plexiglas, ça existe toujours. C'est une marque, en fait.
Bien sûr.
La matière, le nom de la matière, en fait, c'est du PMMA.
Ouais.
Et donc, ça existe sous plusieurs marques. Plexiglas, Altuglas, ouais. Cetacril, Perpec. Voilà. Donc, ça, c'est des noms de marque. Voilà. Alors, ensuite, donc, c'est des matériaux qui sont vraiment, qui ne bougent pas dans le temps. Et donc, ils sont vraiment recommandés pour les garde-corps.
C'est transparent donc, ou fumé ou un peu de couleur, ça peut être.
Eh ben, on a le choix. On
D'accord.
a le choix. Vous pouvez mettre du transparent, du fumé gris, du fumé bronze. Voilà. Après, c'est qu'une question de goût.
La fixation, voilà. Ça se fait comment? Moi, je me souviens que j'avais des espèces de petites lanières qui prenaient sur les barreaux et une vis à l'intérieur. C'est toujours d'actualité ou ça se vise définitivement?
Non, ce qu'il faut vraiment respecter, c'est de garder un système avec un joint de dilatation. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que la plaque puisse se dilater. Si elle est en plein soleil, forcément, elle va se dilater.
Il ne faut pas la visser directement sur les barreaux.
Exactement. Ouais. Ou alors, il faut vraiment prévoir un système avec des rondelles et des joints qui vont venir plaquer la plaque contre le montant,
d'accord.
Mais en gardant tout un jeu de dilatation.
Là encore, ça coûte cher assez. Hein. Moi, je me souviens que ce n'était pas donné. Hein.
C'est vrai que c'est un matériau qui n'est pas forcément donné, mais qui est vraiment un matériau qualitatif.
Et ça veut dire quoi, pas donné? C'est combien pour habiller, je sais pas, un balcon de 4 mètres, par exemple?
Bah, écoutez, il faut compter généralement... Alors, en fonction du type de fixation, on va définir l'épaisseur. Et donc, en fonction de l'épaisseur, les prix peuvent vraiment varier. Donc, on
moyen.
De 50 euros du mètre carré jusqu'à 100 euros si on part sur des très grosses épaisseurs.
D'accord.
Quoi.
Et est-ce qu'il faut une autorisation du syndic?
Bonne question.
Alors, oui, ça, il faut quand même en discuter avec le syndic. Après, voilà, c'est généralement, il y a le syndic. Et puis, il faut aussi vérifier au niveau du PLU, avec la mairie, vérifier que
plan local d'urbanisme, voir
voilà,
si c'est autorisé.
Bon,
plus ça sera fumé ou coloré, moins ça risque de passer.
C'est ça.
Si c'est transparent, a priori.
Ça dépend de votre mairie, voilà.
Et même si c'est transparent, on peut, par exemple, le syndic peut refuser ce genre de choses.
Ah oui, bien sûr.
D'accord.
Question d'homogénéité de la façade, ça c'est clair. Très bien, merci Nicolas. Desvaux, votre site internet?
Comment?
Le site internet, c'est quoi?
Alors le site, vous allez pour chercher l'acrylique shop. Donc
l'acrylique avec un C et un Y.
Voilà, c'est ça. LACRYLIC. Et shop plus
merci beaucoup.
Merci. Voilà.
Moi, j'avais peut-être une question pour Florian Marguerite, parce qu'on a parlé tout à l'heure des Karchers et de ce nettoyeur haute pression, mais on n'a pas évoqué le prix. Aujourd'hui, ça coûte combien un nettoyeur haute pression, Florian Marguerite, sympa, parce qu'en plus, la plupart du temps, on s'en sert quoi? Allez, deux fois par an, Christian, non?
Ah non, un peu plus, parce que si par exemple, vous pouvez vous en servir pour nettoyer la voiture, vous pouvez nettoyer le vélo,
c'est pas un truc qu'on utilise, c'est pas comme un aspirateur qu'on utilise tout le temps, quoi.
Ah, moi, j'utilise assez souvent.
Ouais,
quand on est à la campagne, quand on est en maison individuelle.
Combien ça coûte, Florian?
Alors, c'est justement ce que dit Christian qui va déterminer le choix de la machine. On va être sur des gammes de prix qui peuvent aller d'un modèle pour une utilisation très occasionnelle à une cinquantaine d'euros, jusqu'à des modèles haut de gamme pour une utilisation beaucoup plus soutenue et fréquente qui vont être aux alentours de 500-600 euros.
D'accord. Très bien. Voilà, franchement, il y en a pour toutes les bourses.
Eh ben voilà,
merci Florian Marguerie.
Merci Hervé Thiolet de chez Technicil et Julien Chauffaille de chez Fibernec.
Christian, on se retrouve bien sûr samedi prochain entre 8h et 10h sur RMC.
Oui.
Le rendez-vous maison, vous le savez, chaque samedi matin. Et tout de suite, on va enchaîner avec les GG du sport. Serge Chimon, bonjour Serge.
Bonjour François, bonjour Christian, comment ça va les amis?
Le gazon synthétique, tu connais?
Ah,
il y a des stades qui sont
connais ma femme
ça. Ben oui, bien sûr.
Oh non,
oh,
non.
Mais dis-moi, elle n'est pas maudite.
Ça, franchement, c'est pas bien.
Elle n'est pas maudite.
Oh, quelle culture.
Ça,
quelle culture,
bien. Christian. Non, là, Serge, je suis vraiment très déçu. Je pensais pas qu'avec ce haut niveau d'études, tu pouvais nous sortir un truc comme ça. Je m'en vais, je tourne le dos.
C'est carabin, mon petit poussin.
Bon, alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans les GG du sport?
On va faire du football, évidemment. Première heure, Luis Fernandez, Ali Benarbia. Après, on va parler de rugby avec une Coupe d'Europe qui voit plus de clubs du Sud-Ouest. Est-ce que le rugby français a son avenir encore dans le Sud-Ouest? Parce que c'est Paris et Toulon qui sont en quart de finale de la Coupe d'Europe. Et puis du cyclisme, tu le sais parce que tu en seras demain, oui, c'est Paris-Roubaix.
C'est vrai.
Tu vas y aller, mon kikinou.
Ah, mais complètement. Il faut que j'aille à la Redoute en plus, ça tombe bien. Bon, à tout à l'heure. Hein. On retrouve Serge dans quelques instants après la météo, les infos, le trafic. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Salut à tous.